Bon, on va commencer. Donc, merci de nous avoir préférés au prix Nobel de la paix, à Noël ma mère, à quoi sourire pour le Sénégal, tu nous disais. Voilà. Donc, ici, dans le cadre de la 22e semaine d'information sur la santé mentale, organisée sur Poitiers par l'UNAFAM. Alors, je précise, l'UNAFAM, association laïque, apolitique, aconfessionnelle. Donc, il n'y a pas de lien a priori avec les intervenants de ce soir qui sont de la commission justice et paix du diocèse. Sauf que le sous-titre de l'UNAFAM, c'est un autre regard. Et donc, il nous a semblé que ça rentrait pleinement dans la démarche, qu'il y avait une parfaite cohérence entre la production là, de cette année de la commission justice et paix du diocèse, Balthazar malade de la tête, et puis un des objets généraux de l'UNAFAM qui est effectivement de faire changer le regard sur la maladie mentale dans la société en général, en particulier quand il y a des échéances législatives comme en ce moment, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un texte de la plus haute importance qui est en examen à l'Assemblée nationale depuis mardi sur les soins apportés aux personnes souffrant de maladies psychiques. Alors, comme souvent dans les textes, on confond un petit peu maladie psychique et dangerosité. Donc, on est en plein dans le cœur de notre mission UNAFAM, c'est-à-dire expliquer en quoi la maladie psychique est difficile, en quoi c'est un défi à relever pour les malades, pour leurs proches, pour leur entourage, quel que soit le titre de cet entourage, pour les professionnels, quels que soient ces professionnels, qu'ils soient soignants, travailleurs sociaux, services de gestion d'immeubles, etc. Donc il y a des difficultés. Et puis en même temps, ce n'est pas du tout ce qu'on dit dans le poste. Donc c'est ce qui nous a intéressés dans la démarche que vous avez conduite et qu'on va vous demander d'expliquer. Et puis à la fin, vous me ferez penser, si j'y pense pas, à annoncer les manifestations de la suite de la semaine. Donc, je vous passe la parole pour une demi-heure, trois quarts d'heure d'exposer de votre démarche, comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez inscrit ça à l'agenda de vos réflexions et comment vous avez trouvé ce moyen pour en parler.
Merci. Merci de votre invitation. Puis merci surtout d'avoir remarqué notre travail. Parce que ce soit l'UNAFAM, dont on connaissait l'existence, qui a remarqué notre travail, ça nous a particulièrement motivés et nous a indiqué qu'on n'était peut-être pas tombé trop à côté de la plaque. Alors, nous sommes donc de cette commission qui s'appelle Commission Justice et Paix du diocèse de Poitiers. Nous sommes quatre ici, notre chef ou notre secrétaire général n'a pas voulu prendre place à la tribune. C'est un bon secrétaire, il s'arrange pour que ce soit les autres qui fassent le travail, alors c'est bien. Et donc, un groupe de catholiques, plus ou moins, enfin, ou qui essaient de l'être, plus ou moins bien, et qui ont travaillé depuis 1995 à peu près, avec et autour et un peu à la demande de l'évêque de Poitiers, qui est devenu archevêque depuis, qui supportait pas très bien que des journalistes lui posent des questions à longueur d'année, surtout et n'importe quoi. Et il disait, moi, j'ai pas réfléchi à tout et à n'importe quoi, surtout sur les questions de société. Et donc, quand on sent que des questions ont une certaine importance, j'aimerais bien qu'on y réfléchisse un peu avant. Comme ça, au moins, j'aurai quelque chose à dire au moment où je serai interrogé. Et c'est comme ça qu'on s'est mis au travail, donc un groupe d'une dizaine de personnes. Et puis, selon les questions, on va chercher d'autres personnes qui peuvent avoir des choses à dire. Alors, pour vous dire tout ce qu'on a fait, au début, on a travaillé sur la question du stockage des déchets nucléaires. C'était à l'époque où ça chauffait du côté de Charroux. C'était en pleine actualité. Donc, on a travaillé ça. Après, on a travaillé sur la question des gens du voyage, hein, pas spécifiquement les Roms, mais toutes les catégories de gens du voyage. Après, on a travaillé sur les jeunes et l'alcool. Après, sur les étrangers en Deux-Sèvres. Après, en Deux-Sèvres et Vienne, oui. Après, parce que le diocèse, c'est les deux départements. Ensuite, c'était une période d'élection, et en particulier d'élection municipales. Et on a travaillé avec un certain nombre de maires de grandes communes et plus d'ailleurs de petites communes. Et on a appelé ça « Vivre la politique ». Après, c'était la question de la pauvreté en milieu rural. Après, ça a été sur les jeunes et l'emploi. On a appelé ça « Bosser et vivre ». Et l'avant-dernier, c'était les questions de l'eau, les enjeux de l'eau. Localement, c'était les problèmes d'irrigation, de qualité de l'eau. Mais bon, dans le monde entier, l'eau, ça devient un problème important. Et puis voilà. Et puis, il fallait qu'on choisisse un autre thème. Alors, il y en a deux qui étaient sous le boisseau depuis un certain temps, dont on parlait. Il y avait la prison. Et au moment où on décidait, c'était l'ouverture de la prison à Vivonne. Donc c'était chaud, c'était d'actualité. Ça aurait pu nous pousser à choisir ce thème-là. Et puis il y avait le problème de la maladie mentale qui était là depuis longtemps. Et finalement, peut-être sans qu'on comprenne exactement pourquoi, mais on a fini par se décider pour la maladie mentale, contre l'actualité. Et choisir ce thème-là. Et on s'est mis à travailler, comme on fait d'habitude. Hein. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de réunions, et puis on a fait venir des psychiatres, et puis des gens qui avaient des choses à dire, et puis on les a écoutés, puis on a lu, et puis on a réfléchi, et puis on a pondu notre papier à la fin. Celui-là, d'ailleurs, ne se présente pas comme les autres. Hein. On va vous le dire dans un instant. Mais parce que les médecins, on avait tout entendu. Les médicaments, on avait tout entendu. On avait même deviné qu'il y avait un peu des querelles, peut-être, entre différentes chapelles médicales. Et puis on n'avait pas forcément beaucoup envie de parler de ça, parce qu'on se disait, bon, c'est pas ça qui est peut-être le plus important. Alors, on cherchait, on tournait un peu autour du pot, puis on a trouvé une manière d'en parler. Et surtout, ce qu'on a trouvé, qu'on savait, ça avait été exprimé, parfois clairement exprimé, d'autres fois, ça avait été juste évoqué, d'autres fois encore, ça n'avait jamais été exprimé. On a trouvé que sur un groupe, on était 10, donc ceux qui ont travaillé le plus régulièrement, sur les 10, il y avait 4 familles qui étaient très directement concernés. Et au fur et à mesure qu'on l'a su, que ça s'est dit, ben, ça a permis de travailler encore d'une autre façon. Et puis on a fait cette découverte, nous, on a dit, ben, 4 familles sur 10, si c'est un échantillon représentatif, d'un seul coup, on a pris la conscience qu'on n'avait pas forcément avant de l'importance que ça pouvait représenter. Voilà. Et puis, quoi vous dire encore, que dans nos discussions, souvent, on a reposé la question de la souffrance. D'ailleurs, ceux qui venaient nous parlaient de la maladie, nous parlaient d'eux, parfois même, ils nous parlaient de la violence, et nous, ce qui nous intéressait, c'était et la souffrance. Enfin, on avait comme ça un certain nombre d'idées de départ dont on voulait entendre parler. Bon. Voilà, si vous avez des questions tout à l'heure sur la façon dont on en est arrivé là, ou même si vous avez des questions tout de suite, c'est possible. Sinon, on va continuer à vous présenter un petit peu ce qu'on a fait, et puis on pourra discuter après. Mais si vous avez des questions tout de suite, il faut le faire quand ça passe, la question, c'est... Non ? Alors, on continue un peu. Alors,
un petit mot donc sur la forme, Michel Massé, l'a dit, une fois que nous avons, comme nous le faisons ordinairement, recueilli beaucoup de témoignages d'experts sur la question, notamment de médecins, de soignants, mais aussi de maires de communes, hein, avec qui nous avions gardé quelques contacts. Michel a évoqué un document que nous avions fait donc, en interviewant des maires de communes de différentes tailles, hein, nous nous sommes dit que ce qui nous intéressait en fait, c'était le regard des autres sur la maladie mentale, la question de l'insertion difficile, hein, voilà, c'était la place de ces personnes dans notre société, hein, et donc les maires étaient aussi bien placés, on a eu des témoignages intéressants à ce sujet. Pour dire les difficultés dont les maires de communes pouvaient être bien sûr témoins, hein, la difficulté du vivre ensemble avec ces personnes. Et puis donc une fois que nous avons fait ce travail de collecte, sachant que Michel ne l'a peut-être pas dit, mais que nous ne sommes, quand il a énuméré la liste des thèmes que nous avons travaillés, ni les uns ni les autres dans cette commission. Ne sommes des spécialistes des questions que nous avons osé travailler et publier sous forme de cette modeste plaquette. Hein. Et nous nous sommes référés, enfin, nous pouvons avoir par nos activités professionnelles, nos expériences de vie, certaines compétences, mais sur ces dossiers qui étaient à chaque fois des dossiers assez pointus, nous avons essentiellement puisé de l'information auprès d'autres, hein. En sollicitant, en interviewant un certain nombre d'experts, on va dire, sur ces questions. Donc là, à la fois, effectivement, certains d'entre nous étaient concernés de très près par ce sujet, et en même temps, bon, nous avions sur ce sujet le regard de citoyens, bon, de chrétiens aussi, voilà. Et nous nous sommes posé la question de la forme. Quelle forme allait prendre notre document ? Les autres documents étant plutôt se présentant sous la forme de assez classique, hein, d'ensemble de réflexions qu'on essayait d'organiser avec aussi des encarts informatifs un peu plus techniques voulant donner des éléments d'information. Et puis là, nous avons quand même réfléchi pas mal pour trouver une forme adéquate. Nous sentions bien que cette question de la forme était importante pour ce sujet en particulier. Et nous ne nous sentions pas vraiment à l'aise pour présenter un document de façon objective. Nous sentions sans doute un peu... ça nous paraissait une entreprise un petit peu périlleuse compte tenu de ce que nous étions et puis dont le sens risquait de nous échapper. Et finalement... et je crois, vous confirmerez que c'est une idée qui a été lancée par notre ancien évêque, donc Albert Rouet. Cette idée donc des lettres est apparue. Alors on a creusé, on a réfléchi pas mal et on en est arrivé donc à l'idée d'un ensemble de lettres essentiellement de personnes de la société, côtoyant Balthazar ou pouvant avoir entendu parler de lui. Alors, je vais parler de Balthazar, dire un petit mot.
On a choisi un nom comme ça.
Voilà, on a choisi des lettres et on a choisi de donner une silhouette à ce malade de la tête. Alors, je cite la fin du document, il y a un petit mot du Père Rouet qui commentait ceci, il disait, voilà, nous avons créé un personnage, une personne venue de loin, marchant à l'étoile, Balthazar. Alors c'est un nom qui peut... mais on s'est rallié à ce nom. Il a un nom, mais il est jeune, adulte ou âgé, homme ou femme. Hein, c'est un nom qui rassemble en fait beaucoup d'identités possibles. Et il ajoutait, les lettres de ce recueil lui sont adressées ou elles rejoignent des gens qu'il connaisse. Et une lettre est enfin signée de sa main. Et finalement, on s'est dit, c'est peut-être la meilleure manière de rendre compte de ce qu'on a essayé d'approcher, c'est-à-dire différents regards, bienveillants ou pas du tout bienveillants, compréhensifs ou pas du tout, douloureux, inquiets. D'autres regards, vous l'avez vu, on va refaire un parcours de l'ensemble des lettres, d'autres plus objectifs, un peu plus scientifiques, plus institutionnels, voilà. Mais on s'est dit, au fond, d'arriver à croiser ces écrits, ces différents regards, ça permettait peut-être à des situations telles que celles que vous pouvez connaître de s'y retrouver, de s'y investir plus. Et au fond, ça permettait peut-être à la fois de préserver la part de mystère, d'énigme, de quelque chose d'irréductible qui reste, et en même temps de croiser, d'essayer d'approcher par ces regards croisés la personne de ce Balthazar. Voilà, un petit peu ce qu'a été notre démarche. Et on a senti, à partir du moment où on a décidé cette forme, je crois qu'on a été un peu soulagés et on a pu avancer plus vite dans la rédaction. On s'est partagé le travail des lettres. Voilà.
Alors on peut dire qu'il y a, oui, il y a 17 lettres. Bon, peut-être moi je peux présenter la. Non, bien 16 lettres, pardon. Je vais vous présenter un petit la première lettre. C'est la lettre d'une directrice d'école qui écrit, qui a eu Balthazar dans sa classe. Alors Balthazar, évidemment, c'est un nom générique. Hein, là, c'était Balthazar Petit. Elle a eu Balthazar dans sa classe et comme il va passer dans la classe d'une nouvelle enseignante qui arrive juste dans l'école, elle lui fait une présentation des difficultés qu'elle a rencontrées et aussi de ce que la présence de Balthazar dans la classe a apporté. Alors, bon, vous savez que, évidemment, hein, maintenant, surtout depuis la loi de 2005, les personnes qui ont un handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap psychique, peuvent être scolarisées dans des classes. Et alors, souvent avec une aide, avec un accompagnement, pas toujours à temps complet, etc. Mais il faut aussi que les enfants de la classe acceptent, et ça se fait hein, dans les écoles. L'acceptation se fait sans trop de difficultés. Et il faut aussi que les enseignants l'acceptent et arrivent à accepter de pas tout comprendre du fonctionnement intellectuel d'un jeune qui a ce type de handicap. Parce que c'est vrai que qu'ils réussissent très bien certaines choses et d'autres choses ne passent pas du tout. Voilà, donc c'est un peu ce que j'expliquais dans cette lettre. C'est la première lettre qu'on a mise parce que c'était le plus jeune de nos Balthazar. Enfin, peut-être pas quand même. Oui.
Voilà. Alors ensuite, il y a deux lettres. À plusieurs endroits dans notre document, nous avons croisé des regards différents, voire opposés, à propos de Balthazar. Bon, nous sommes donc une commission diocésaine et c'est vrai que le public, peut-être le plus important qui va lire ce document, mais on est très content qu'il soit lu en dehors de ces cercles, c'est bon, le public des chrétiens abonnés à la revue Église en Poitou. Et nous avons voulu montrer comment, dans des communautés chrétiennes, mais c'est valable dans tous les groupes humains, hein, comment un Balthazar... peut-être vécu comme quelqu'un de déstabilisant ou au contraire comme quelqu'un voilà, qu'il faut savoir accueillir. Alors il y a deux lettres contrastées, la lettre d'un, on va dire pour simplifier, d'un responsable d'une communauté chrétienne qui est harcelé au téléphone par Balthazar et qui n'en peut plus, qui n'en peut plus personnellement et qui en vient à dire, donc il est responsable, il devrait normalement avoir une position un peu plus flatteuse, mais bon, c'était pour montrer les limites humaines aussi dans lesquelles nous sommes, y compris quand on est en responsabilité, et qui dit, voilà, on a fait des efforts quand même pour accueillir ce Balthazar, mais cette personne est sans arrêt dans la plainte, dans le harcèlement téléphonique, nous n'arrivons pas à nous en sortir, on fait des efforts pour l'accueillir, mais elle ne répond pas ou à côté, et puis, à terme, elle risque d'être... un poids trop important pour le groupe, hein, pour la communauté chrétienne. Bon, Et alors, il envoie, cette lettre est envoyée à une autre personne responsable de la communauté qui s'occupe plutôt de la charité, de la solidarité. Qui lui dit non, pas du tout, ça ne va pas, ça. C'est pas un propos digne d'un responsable, surtout quand on se veut chrétien. Voilà, il lui fait la leçon de manière très développée et il contre-argumente. Voilà, c'était pour montrer les difficultés où nous, tout groupe humain se trouve, et je pense que je n'apprends pas grand-chose à vous en vous disant ça, mais on a voulu le montrer, l'expliciter. Et montrer à la fois les limites, le type d'argument qu'on peut entendre aussi par rapport sur le risque de perturbation que ces personnes pourraient entraîner dans un groupe qui a ses repères, ses marques qui, et puis au nom d'un certain idéal comment on peut aussi avoir un autre regard. Alors il y a peut-être un regard qui est trop défaitiste et avec des arguments peut-être discutables, et puis la réponse peut paraître trop idéaliste, mais ça permet à chacun de se situer.
Après, il y a une lettre qui est intitulée « Lettre à d'anciens administrés ». Alors, en réalité, c'est un maire. Ça a été rédigé, d'ailleurs, par un maire. Dans sa commune, à des Balthazar, comme toujours. Et il y en a un qui avait posé problème. Cette personne était protégée par quelqu'un qui est décédé. À partir du moment, ce n'était pas quelqu'un de sa famille, mais un ami. À partir du moment où cet ami est décédé, la personne a commencé à poser des problèmes un peu avec l'entourage. Et puis, à la fin, ça se passait encore plus mal parce qu'il prenait son fusil, il tirait un petit peu sur ce qui se passait, il a tué personne, heureusement. Et donc, les voisins, se plaignaient. Ils allaient voir le maire, bien sûr, comme toujours. Et puis, le maire devait essayer d'arranger tout ça. Et puis, un jour, ça a dégénéré. Donc, le maire était venu même avec les gendarmes. Et puis au bout du compte, Balthazar est mort tout seul et on l'a retrouvé deux jours après. Et elle écrit à des gens qui demandaient des nouvelles, Et elle explique ce moment de la vie de la commune et ce qu'elle avait réussi à faire et ce qu'elle regrettait de ne pas avoir réussi à faire. Après, on a lettre à une mère de famille. Alors là, on va passer la parole.
Il y a un micro.
Il va venir s'asseoir.
Oui, lettre à une mère de famille. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me placer dans ce que peut être une mère de famille. Quand l'annonce effectivement est faite que son enfant est atteint d'une maladie aussi importante. Donc, si vous voulez, je vais vous transmettre un petit peu ce qu'elle a écrit. Après le choc, bien sûr, de l'annonce, il est évident qu'il faut réagir et qu'il faut surmonter. Donc, son premier objectif, c'est d'accepter cet enfant différent. Je vous lis un peu le texte, je m'excuse. Différent avec tout ce qu'il représente, les espoirs, les joies, mais aussi les interrogations, les doutes, les difficultés, les découragements. Donc, elle parle effectivement de tout ce qui a pu troubler la vie de famille, puisqu'il est le troisième des enfants de la famille. Mais, en fin de compte, il est reconnu comme tel. Et à partir du moment où il est reconnu comme enfant, comme les autres, ce qui est important, c'était de l'éduquer comme une personne en potentiel et en devenir, plutôt qu'en malade ou déficient. Alors, c'est à partir de tout cela qu'il y a une réflexion assez profonde sur ce qu'elle vit. Alors, ce que j'ai sans doute oublié de vous dire, si c'est une lettre à une mère de famille, c'est qu'elle s'adresse à une autre mère de famille qui vient d'avoir, effectivement, qui a un enfant dans le, enfin, atteint également de maladie mentale. Donc, elle lui écrit, exactement, avec tout ce qu'elle ressent. Et puis, je dirais qu'elle termine, pratiquement, en disant, avec Balthazar, j'avance, je recule, je piétine, je prends du recul, je fais des bonds, je me blesse, je cicatrise. Parfois, je me sens sereine, forte, invulnérable. Parfois, je me sens fragile et impuissante. Je chante et je pleure. Je vis, je suis. Voilà. En quelques mots, si, ce que je peux dire sur cette lettre. En tout cas, crois-moi que c'est profond, c'est émouvant. Mais combien riche.
Non, on va rester dans les lettres peut-être un peu plus confidentielles, si je puis dire. Où, la lettre numéro 7 est la lettre d'un époux à Balthazar, sa femme, est hospitalisée en psychiatrie. C'est le parcours d'un couple dont l'un devient malade, ou dont l'un était malade et dont la maladie se révèle. Et dans cette lettre qui est aussi très émouvante parce qu'elle est très très vraie, eh bien on retrouve ces questionnements finalement des conjoints de malades mentaux, c'est-à-dire en sachant qu'il y a ces moments où ça va bien puis ces moments où ça ne va plus. Ces moments où on se comprend et ces moments où on ne se comprend plus. Et donc là, à la suite d'une crise, cette femme se fait hospitaliser et on sent très bien dans cette lettre toute la culpabilité de celui qui fait hospitaliser. Alors on sait qu'il fait hospitaliser pour le bien, mais en même temps, c'est toujours cette séparation, cette déchirure. Et il y a aussi, derrière cette lettre, l'espoir, heureusement qu'il y a l'espoir finalement qui reste derrière. L'espoir, c'est ce mot de la fin. En t'écrivant cette lettre, je vais en quelque sorte réitérer ces trois mots. Je t'aime et te dire que je t'attends. On va essayer de remonter la pente ensemble, ton mari. La lettre numéro 8 est la lettre de tous les Ist, Og et autres Yatres qui ont croisé Balthazar. À tous les Ist, Og et autres Yatres. Ça, c'est la lettre d'un enfant de Balthazar qui a vécu jeune la douleur de la maladie de son père et qui a vu donc son combat finalement mené avec toutes les aides qu'on connaît, alors entre les psychologues, bien entendu, les histogues et autres yatres, c'était les psychiatres, les psychologues, les infirmiers, les... Donc, tout ça s'est passé dans des années où on cachait plus la maladie mentale qu'on ne peut l'évoquer aujourd'hui, où il y avait certainement beaucoup de familles, comme aujourd'hui, qui étaient atteintes, mais on en parlait moins. Et surtout, on s'occupait plus ou moins bien des malades, avec les connaissances qu'on en avait sans doute aussi à l'époque, hein, peut-être aussi c'est un certain empirisme. Hein. Mais ce fils de Balthazar se rebelle contre le fait que la famille n'a pas du tout été suivie. Aucun suivi psychologique pour les enfants et la femme. Alors, je pense que la situation a évolué un peu, peut-être aujourd'hui, quand même, hein, d'après les témoignages qu'on a eus, quand même, au cours de notre... Oui. Enfin, nous, on souhaiterait qu'elle évolue, en tout cas, ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que, un peu ce qui est dit dans la fin de la lettre, un malade mental dans une famille, c'est une famille malade, évidemment. Et une famille malade, eh ben, il faut la soigner. Il faut s'en occuper, il faut s'en préoccuper. On la soigne pour que même quelques dizaines d'années après, les fantômes de la souffrance et de la culpabilité qui continuent à hanter nos vies puissent disparaître. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Quand on est enfant de malade mental, quand on a 10, 12, 14 ans, qu'on voit son père, sa mère sombrer dans la dépression, et puis dans l'excitation, parce que très souvent il s'agit de ce qu'on appelle maintenant les fameuses maladies bipolaires, mais qui étaient les psychoses maniaco-dépressives, hein. Ben, on a vécu l'excitation, la débauche de dépenses, projets, etc. Et, tout, et puis on a vécu l'enfermement à l'hôpital psychiatrique, on a vécu la tentative de suicide avec le SAMU, on a vécu tout ça, quoi. Donc je pense que ça ne reste pas innocent pour les années futures et qu'il faut savoir s'en préoccuper. Et alors la troisième lettre qui suit, qui est la lettre numéro 9, c'est la lettre à un étudiant en médecine qui lui... Alors de l'autre côté, je dirais un peu... bon, cette lettre numéro 8, là, dont je vous ai parlé, n'est pas très gentille pour les psychiatres et pour les malades et pour les médecins, c'est sûr. Mais quand on est enfant, on a peut-être besoin qu'on s'occupe de vous. Et les médecins sont toujours, je pense, très centrés sur la maladie, parfois le malade, mais en tout cas pas l'entourage. Hein, et ça, c'est difficile. Donc l'étudiant en médecine s'interroge sur le choix d'une future spécialité et écrit un... il demande à un prof... en psychiatrie son avis, et le professeur en psychiatrie lui répond. Donc. Et alors c'est vrai qu'on a un peu, bon, je dirais un panégyrique du bienfait de la psychiatrie, mais il faut dire que la psychiatrie, c'est une spécialité qui est difficile, hein, il faut le reconnaître. Hein. Alors le psychiatre, il reste dans un discours... sur l'humanité du soin, sur la richesse de soigner l'homme dans toutes les étapes de son cheminement, il reconnaît quand même que la psychiatrie a changé. Ça veut dire que si la psychiatrie a changé, qu'est-ce que c'était avant, quoi. donc il y a eu sans doute des passages difficiles et que tout n'est pas réglé. C'est une spécialité à forte responsabilité, dit-il pour finir, mais devons-nous nous en plaindre quand nous avons fait le choix d'être médecin? Et il dit qu'il y a une stimulation à un enrichissement que peu de spécialités médicales peuvent proposer, en particulier lié à ce contact humain très spécifique. Voilà, bon. C'était un petit peu peut-être le contrepoint de la lettre d'avant pour dire quand même que les médecins sont aussi des êtres humains et puis qu'ils ont leurs limites et puis que c'est bien quand ils peuvent les reconnaître aussi, hein, finalement.
Alors la lettre suivante, la lettre 10, c'est un changement d'horizon. C'est la lettre d'un théologien à un autre théologien. C'est l'occasion de préciser quel point de vue religieux on peut avoir et on a pu avoir dans l'histoire, dans la très ancienne histoire, sur ceux que l'on appelait sommairement les fous. Hein, cette lettre qui a été écrite par le Père Huet à l'époque dit en gros deux choses. Elle rappelle que dans la haute antiquité, il y avait un lien très, très fort entre, bon, pour simplifier, la folie et le sacré. Les fous étaient considérés comme des sortes d'interprètes d'un monde mystérieux au-delà de nos cadres de raison, le monde du sacré, avec cette séparation entre le profane et le sacré. Et le fou était un peu, voilà, une sorte de porte-parole. Hein. La fameuse Pythie de Delphes, hein, prophétisait, lançait des paroles plus ou moins mystérieuses et qui nous paraîtraient tout à fait déraisonnables, avec toute une mise en scène sur son rocher, avec des fumerolles, etc. Voilà, le fou était celui qui était en quelque sorte l'interprète de la divinité, mais un interprète obscur. Alors, ce rappel, c'est aussi pour pointer, hein, dans cette lettre que d'abord que ces personnes ont elles-mêmes enfin, peuvent avoir une recherche religieuse explicite, et puis qu'elles sont elles-mêmes souvent marquées par cette opposition entre ce qui serait profane d'un côté, mauvais, et ce qui serait le sacré, un sacré un peu archaïque. C'est aussi l'occasion de redire, de rappeler que justement le christianisme a voulu rompre avec cette distinction millénaire, séculaire, hein, et qu'il reste quelque chose de cette division archaïque chez certaines, en tout cas, de ces personnes. Mais que, c'est la deuxième partie de la lettre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, là je cite... Contrairement à d'autres personnes, je n'ai jamais rencontré chez Balthazar l'attachement pointilleux à des postures, à des cadres religieux. Il n'a pas la magie matérielle du rite. C'est plutôt une confusion qui mêle des points différents sans hiérarchiser leur place. Bon. Le caractère déroutant, hein, que peut avoir aussi la recherche spirituelle de ces personnes. Déroutant pour nous. Et la lettre se finit par un appel donc, de ce théologien à son confrère en lui disant « Bon, c'est difficile, mais il faut savoir à la fois ne pas idéaliser à l'excès, mais savoir discerner et reconnaître, au-delà d'expressions qui peuvent être très déroutantes, l'authenticité d'une recherche, ici spirituelle, on va dire, religieuse. Hein, et que ces personnes peuvent ouvrir à qui... ceux qui savent les écouter, des voix dans ce domaine qui peuvent être aussi des voix fécondes, mais que c'est un petit peu par fulgurance, par éclair. Voilà.
Alors, la lettre suivante, la lettre numéro 11, c'est une lettre aux frères et sœurs et à la famille de Balthazar. Et là, Balthazar a vieilli. Et ses frères et sœurs et sa famille se posent des questions sur maintenant. Ben, eux ont vieilli aussi, hein, et ils prennent contact avec un ami qui a toujours été proche de Balthazar. Et cet ami leur répond en leur disant Balthazar maintenant, bon, à une époque quand on avait une maladie psychique, on ne vivait pas très 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 longtemps, hein. Il y avait une fragilité. Maintenant, la médecine a fait des progrès et souvent on peut vivre très âgé. Il faut que vous l'acceptiez, toute la famille va l'accepter. Et bon, il fait référence au fait que dans une famille, il y a des questionnements qui se posent. C'est-à-dire, est-ce que on se demande... Est-ce que lui, qui a besoin toujours qu'on l'aide ou qui a besoin toujours qu'on soit là, qu'est-ce qui va se passer si nous, on meurt avant lui ? C'est ces questions-là qui se posent pour des frères et sœurs. Ou s'il pouvait mourir avant nous, on serait soulagés dans un sens. Hein. Et il y a une certaine culpabilité pour les frères et sœurs de se dire on en est presque à souhaiter ça parce qu'on a peur de savoir comment il va se débrouiller sans nous. Donc, il fait référence à tout ce questionnement dans la famille. Hein. Et il dit aussi qu'à partir du moment où il y a une retraite, où Balthazar se trouve à égalité avec les autres gens, avant, il ne travaillait pas, il ne pouvait pas travailler. Mais à partir de l'âge de 60-65 ans, on ne lui pose plus la question de son travail. Donc déjà, il est un peu plus normalisé. Il a une vie un peu comme les autres. Il retrouve une sorte d'apaisement, quoi, en étant en vieillissant aussi. Et voilà, c'est... qui me semblait le plus important. Oui.
On a passé la demi-heure, hein, donc quand on a passé la demi-heure, on n'est pas loin des 45 minutes. Mais je pense de toute façon que vous avez déjà un peu une idée de ce que contient le travail. Alors on va essayer d'aller plus vite pour les lettres qui restent. Hein. Alors il y en a une qui est intitulée « Lettre à un donneur de caution ». C'est la caution pour logement. hein, la caution pour le bail. Et c'est un Balthazar qui vit avec une copine Balthazar, elle aussi. Et un soir, le donneur de caution est appelé parce que bah, y a une crise de ménage, quoi. Parce que le garçon avait tapé un peu la fille. Et alors, je vous dis pour aller vite ce que dit le donneur de caution. Scène plus magnifique que terrible. Lui, plutôt grande gueule d'habitude, faisait profil bas. C'est elle qui parlait le plus. Elle lui disait, chérie, si tu me tapes, on ne doit pas rester ensemble. Il faut qu'on vive séparément. J'ai envie de continuer à te voir. Il faut qu'on prenne de la distance. Je ne veux plus que tu me tapes. Etc., etc. Et donc, ils avaient décidé de se séparer. Puis il fallait deux appartements. Donc, il fallait donner une deuxième caution, etc., etc. Et l'auteur de conclure, finalement, je ne connais pas beaucoup de couples dits normaux qui auraient été capables de gérer aussi bien cette crise de couple. Après, qui c'est là ?
Oui. Là, une lettre 13, à nouveau à tonalité un petit peu religieuse, mais c'est enfin aussi très, très humaine. C'est une religieuse qui écrit à une autre de sa communauté pour échanger des nouvelles sur un Balthazar que la communauté a accueilli parce qu'il est venu frapper un peu violemment à la porte. Et c'est à la fois le témoignage de la façon dont elles l'ont accueilli très simplement et dont ce marginal hein, qui était pris enfin, je dis marginal aussi parce qu'il était en lien avec les SDF du quartier qui vivaient en partie dans la rue et pris en charge par la... Enfin, il devait être pris en charge par la mission locale et puis on ne sait pas très bien. Justement, on reste un peu dans le mystère. Voilà, tel qu'elles ont reçu ce Balthazar qui avait de fait un comportement étrange dans les rues, mais qu'elles ont su accepter et accueillir, et au point qu'ils se sentent bien chez ces femmes, hein, ce groupe de femmes, et elles s'inquiètent de ce qu'il est devenu. Voilà, un beau jour, il disparaît, on n'a plus du tout de ses nouvelles. Voilà, elles veulent dire très simplement qu'il y a eu quelque chose, il y a un courant qui est passé, un courant de sympathie qui est né entre elles et ce Balthazar. Et à la fin de la lettre, il y a l'évocation alors d'une figure un petit peu particulière, c'est un prix Nobel d'économie qui avait reçu le prix Nobel d'économie plus tard, hein, et qui avait plongé dans la schizophrénie, mais qui était un surdoué, enfin, d'une certaine manière. Voilà. C'était un rappel pour dire, bon, voilà, on a su sans doute l'accueillir, mais voilà, on a manqué peut-être aussi de faire éclore quelque chose d'autre chez cette personne.
Alors, après, il y a une série de trois lettres dans lesquelles on voulait faire de l'information, l'information un peu... Pas moins du témoignage que de l'information. On ne savait pas trop comment faire. Alors, on a eu l'idée, il y en a une, c'est lettre à un journaliste, et en réalité, c'est un expert auprès des tribunaux, un expert psychiatre, qui répond aux questions d'un journaliste qui avait demandé qu'on lui explique ceci et cela. Alors, elle explique, ou il explique, la différence entre les psychiatres et les psychologues. Il explique les expertises, les différentes expertises que ces spécialistes sont amenés à faire, et elle explique la différence entre tutelle, curatelle renforcée, donc des choses comme ça. Et puis, on a mis une annexe à cette lettre qui est un rapport d'expertise psychiatrique de B, de Balthazar, bien sûr. Et ce Balthazar-là, il avait commis une agression, il avait été à un moment dangereux. Et donc, on a inventé un peu, hein, mais un rapport. Parce qu'on s'est dit, les gens ont peut-être envie de savoir comment ça se présente, un rapport d'expertise. Donc, on a publié ce rapport d'expertise, mais avec un gros avertissement à la fin. Parmi les cas peu nombreux de violences commises par des malades mentaux, les médias retiennent certaines affaires qui donnent lieu à de longues descriptions d'actes graves. Des interrogations apparaissent alors sur le travail des experts. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une lettre. Mais il faut absolument éviter de faire l'amalgame entre la maladie mentale et le crime. Entre un homicide sur 20 et 1 sur 50 seulement
sont concernés par la vie mentale. Et là, on explique en donnant des chiffres que les malades, en général, c'est victimes qui sont, et pas auteurs. Hein, et que la plupart du temps, sont eux des victimes. Et puis après, la lettre suivante, c'est courrier des lecteurs au sujet de l'affaire Balthazar. Et donc là, on s'est amusé un peu à imaginer les lecteurs du journal dans lequel on avait parlé de l'affaire Balthazar, comment les lecteurs réagissaient. Alors, il y a un lecteur qui est plutôt sympathique, qui réagit plutôt bien, puis il y en a un autre qui est plutôt bouché et qui réagit, bon, les fous, il faut les enfermer, au moins pendant qu'ils sont en prison, ils font pas de mal. Enfin, oui, on a caractérisé un peu comme ça deux réactions différentes.
Et puis la dernière lettre, c'est une lettre de Balthazar, donc d'une personne qui a un petit peu mal dans sa tête, hein, et qui utilise le bus et puis qui est sous traitement, sous médicaments, qui donc certains jours... C'est pas une fiction. C'est pas une fiction. Oui, c'est une vraie personne, hein, qu'on a interviewé, enfin qu'un d'entre nous a interviewé. Oui, donc certains jours, quand il prend le bus, il n'est pas tout à fait dans son assiette. Hein, oui. Et justement, oui, s'adresse aux... c'est ce que je l'ai dit. S'adresse aux usagers, à ceux qui prennent le bus. Hein, et certains jours, il n'est pas bien dans sa tête. Quand il monte dans le bus, les gens le regardent avec un drôle d'air. Et c'est ce regard-là qu'il a du mal à supporter. Et il le dit. Et il dit que c'est difficile de suivre un traitement tous les jours. Et qu'il y a des jours où il en a vraiment assez, il a envie de laisser tout tomber. Donc il parle de lui, quoi, de ses difficultés. Hein. Voilà. Et que prendre le bus, déjà, c'était un gros effort pour lui, d'arriver à demander une carte de bus, hein, et pouvoir avoir sa carte de bus, prendre le bus et oser monter dans le bus, ça a été difficile. Avant, il marchait des kilomètres, hein, pour aller d'un endroit à un autre. Et il le fait quand même de temps en temps quand il sent que... quand il voit des gens dans le bus qui n'ont pas l'air de... qui le regardent déjà d'un drôle d'air avant même qu'ils soient montés. Je préfère y aller à pied. Voilà. On a voulu terminer par cette lettre de Balthazar, parce qu'on pensait que c'était important aussi que cette personne, elle prenne... c'était des personnes un peu imaginaires, mais là, c'était vraiment une personne réelle, quoi.
Voilà, et ça se termine donc par un texte qui est signé, le dernier. Le dernier est signé d'Albert Rouet, l'archevêque. Il l'a intitulé « Au seuil », hein, ». Et il parle des frontières, c'est-à-dire de ces zones où il y a un côté, l'autre côté, et tout ce qui se passe comme ça, quand on est très près d'un côté ou de l'autre. Mais on a déjà un peu parlé de théologie. On n'a pas parlé de la couverture.
Oui, alors, dans ce dernier texte d'Albert Rouet, où il nous incite à ne pas craindre et à laisser les portes ouvertes, il dit aussi que ceux qui sont mal dans leur tête déploient très souvent une surprenante activité intellectuelle ou artistique, et quand il s'agit de trouver la couverture, en fouillant dans Internet, c'est bien Internet pour ça, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle creativecommons.org, en plus je cherchais une œuvre qui soit libre de droit et gratuite, parce qu'on n'a pas de budget, donc on ne pouvait pas payer un copyright. Et j'ai trouvé cette très belle œuvre qui a été faite par un Balthazar. Hein, et un Balthazar, d'ailleurs, qui a fini sa vie un peu tragiquement. Mais je trouve qu'il reflétait bien à la fois la complexité, la diversité, et puis les couleurs. Et finalement, une œuvre très contemporaine. Hein. Voilà, donc voilà l'histoire de cette couverture aussi. Donc jusqu'au bout, on a essayé d'être fidèle.
Tu n'as pas dit le titre de l'œuvre.
Le titre de l'œuvre n'avait pas de titre. Et oui, sinon je l'aurais mis. Oui.
Voilà, et Balthazar, pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça a une belle consonance pour évoquer l'étrangeté et la tendresse tout à la fois. Bon, voilà le... résumé de faire la présentation rapide.
Merci beaucoup. Moi, j'aurais plein de questions, mais je vais essayer de me taire. Est-ce que quelqu'un...
Je parle à madame.
Oui.
Vous avez parlé de la lettre 11 à la page 23. Mon mari et moi sommes là. Nous sommes pères d'un fils qui a des troubles bipolaires et d'une fille qui est malentendante. Alors le fait de dire qu'on a deux enfants handicapés, j'évite de le dire parce que je ne peux pas supporter l'attitude des gens en face qui sont là à nous plaindre. Parce que nous ne sommes pas à plaindre. Alors, pour revenir à la page 11, je trouve que ce monsieur ou cette dame qui est directeur d'une maison médicalisée, il n'a peut-être pas fait le tour des parents. Parce que je ne me vois pas dans cette position-là. Quand notre fils, il nous dit très souvent qu'il veut se suicider, nous réagissons en disant « Tu as peut-être quelque chose encore à faire dans ton existence. Réfléchis à ce que tu peux apporter à tes copains, ton entourage. Et on compte sur toi et nous t'aimons vivant. » Alors ce texte est d'un négatif, d'une tristesse. Il parle de la mort à chaque strophe. C'est troublant pour nous.
Oui.
J'ai de la peine à me dire que je voulais proposer la lecture de ce livre à notre fils. Et puis, j'ai plus envie maintenant. Parce qu'il va dire, est-ce que c'est ça que vous pensez, vous, parents, vous, par derrière, vous dites autre chose. Vous me dites que vous m'aimez vivant. On a essayé de le rattraper plusieurs fois lors de ses tentatives de suicide. Il est toujours vivant, disons que ça devait être des appels au secours. Mais il nous a quelquefois dit, les dernières fois, il a dit, la prochaine fois, ça sera du vrai. Ça sera la bonne. Alors, ça nous fait peur, évidemment. Et puis, le troisième paragraphe dit, bien sûr, que la maladie rend vulnérable, mais l'accompagnement et les soins qui lui sont prodigués depuis si longtemps lui ont permis de se maintenir physiquement en assez bonne forme. C'est vraiment pas la grande forme pour nous, chez nous, en ce moment. C'est très difficile pour un bipolaire de trouver le bon dosage de médicaments. C'est ou trop d'excitation ou trop dans le creux ou trop dans... Ça fait des vagues. Voilà. Alors là, j'ai pas pu lire. Ouais, je me suis arrêtée à la lecture ici parce que ça m'a bloquée. Excusez-moi d'être négative comme ça, mais...
Ben non,
c'est important de vous entendre. Mais bon, la personne qui a écrit ça, c'est quand même quelqu'un dont le frère est malade, mais c'est pas une maladie bipolaire. Alors peut-être que c'est aussi différent, hein, suivant ce qu'on a vécu. Et puis là, il s'agit de frères et sœurs qui vieillissent, donc les parents sont déjà décédés. C'est toute le reste de la famille, hein, c'est une situation très différente de la vôtre. Mais je comprends bien que certaines lettres puissent choquer. Il n'y a pas que celle-là. Hein. Je pense qu'il y a d'autres lettres qui peuvent vous choquer fortement les uns ou les autres.
La lettre de la caution.
Oui.
C'est pas judicieux de parler de caution à un bipolaire.
Ouais. Ce texte, il ne s'adresse pas obligatoirement. Il peut être lu, évidemment, par tout le monde, hein. Il s'adresse beaucoup à des gens qui connaissent pas du tout, qui se font des idées sur ce que c'est qu'une maladie psychique ou une maladie mentale, qui sont loin de ça et qui Ça peut leur permettre de changer de regard. Hein. C'est vraiment l'objectif.
Une des réponses, et c'est sans doute une des ambiguïtés de notre travail, c'est que toutes les situations visées ne sont pas les troubles bipolaires, ce qui est très clair dans certaines lettres, des psychoses dans d'autres lettres. Il y a aussi des lettres qui, à la limite, concernent plus des situations de handicap mental que de maladie mentale. Oui. Alors, on a bien entendu tout ça, puis on s'est dit, est-ce qu'on va se mettre à rappeler aux gens la différence entre handicap, maladie, on ne savait pas trop. Et finalement, on a un peu mélangé tout, quoi, ce qui fait qu'il y a des lettres qui peuvent bien coller et d'autres... Et d'autres pas. Hein. On a dit maladie, handicap, maladie sans handicap, handicap sans maladie, les deux à la fois, des mots que les savants distinguent, mais que la vie entrecroise. Et puis nous, on a cherché à traiter un peu tout, mais du coup, il y a des situations qui correspondent plus, quoi. Hein. Et dans la lettre numéro 11, c'est le Balthazar le plus âgé. C'est-à-dire qu'il est déjà, lui, quasiment en maison de retraite. Il a vécu, les parents sont partis. On voulait en trouver un âgé, quoi, pour...
vouloir le faire mourir avant l'âge...
Oui, c'est pas... Non, oui.
C'est choquant.
Oui.
Moi, je veux bien risquer une réponse, parce que c'est justement ça qui m'a intéressé et ému au plus haut point, c'est que à chaque fois, on avait les différentes facettes de la médaille. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti personnellement, parce que moi, l'envie de voir mon fils disparaître, je l'ai connue. Et donc, j'ai trouvé que ce soit dit dans un document qui parle d'espoir m'a paru fort et regarder la réalité en face en même temps. j'entends, mais moi, ma perception a été celle-là aussi. Et que je trouve qu'on aurait été beaucoup plus heureux à certains moments s'il n'avait pas existé. Et en même temps, je suis là à faire ce que je fais. Donc, ce mélange, enfin, on le voit bien aussi dans les formations que dispense l'UNAFAM, c'est que pour bien aider, accompagner, on dit aussi qu'il faut ouvrir la bonde à ses sentiments et puis que tout ce qu'on a un peu sur la patate sorte à certains moments, et qu'on se sent plus libre après pour rentrer en relation. Moi, c'est ce que j'ai trouvé fort dans le travail. Et quand vous disiez tout à l'heure que le premier discours du responsable de paroisse était dur et négatif, moi, je l'ai trouvé aussi fort et positif en même temps. Je dirais que comme les personnages des mythes ou les personnages de la Bible, on se retrouve dans plusieurs personnes. Enfin, je me retrouvais dans l'un et l'autre, dans le procureur et dans le défenseur. Moi, c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans le fascicule.
Je tenais particulièrement à vous remercier pour ce petit livre qui m'a beaucoup touchée, parce que j'ai trouvé vraiment que nos Balthazar, vous les connaissiez fort bien.
Hein. On en connaît quelques-uns.
Tout ce qui est écrit, on peut le ressentir à un moment ou à un autre. Vous en avez certainement rencontré quelques-uns. Je suis sûre, en tous les cas, vous avez rencontré notre fils qui est croyant. Souvent les groupes de prière et les églises, et je dois dire que vous lui avez beaucoup apporté. Le fait d'être reconnu et accepté, hein, avec sa différence, l'a beaucoup aidé, parce que effectivement, si les médicaments sont nécessaires, ils ne font pas le tout. Et malgré les médicaments, si ces gens ne bénéficiaient que de regards malveillants, leur vie ne serait pas possible. Le médicament est une nécessité, mais le regard porté sur eux, un regard bienveillant, c'est énorme. Et j'ai beaucoup apprécié aussi ça, parce que je me suis dit quelque part que c'était une façon de les faire reconnaître par beaucoup de gens. Hein. Parce qu'il y a des handicaps qui sont faciles à repérer, Celui-ci, il est quand même beaucoup moins. Il peut prêter à confusion. On peut dire c'est un délinquant, quelqu'un de mal élevé. Enfin, un terme de... avant d'en arriver, franchement, à la pathologie pure. Alors, j'ai trouvé que c'était important aussi que vous l'écriviez.
Oui.
Que ça permet, quelque part, en dehors de certes, comme d'une affable, où des problèmes sont bien connus, que ce soit aussi diffusé.
Oui, c'est l'objectif de la commission, en fait, là, de publier des petits textes qui sont distribués dans les églises. Et l'objectif, c'est que les gens puissent poser des questions à partir de là,
voilà.
Qu'ils puissent en discuter, que ce soit le départ d'échanges et de discussions, et donc d'ouvrir un peu l'esprit de ceux qui fréquentent les églises, mais ça peut être des autres aussi, voilà, pas seulement.
C'est aussi un document qu'on a diffusé pour ce document-là aux instances politiques des deux départements, hein, la région, conseil régional, conseil général. Normalement, on devrait le faire, ou si ça a été fait, ou on devrait le faire au niveau des établissements scolaires. Et puis des établissements qui accueillent des personnes handicapées pour pouvoir éventuellement le proposer aux travailleurs sociaux, hein, aux éducateurs spécialisés, etc. Parce que je pense que c'est vrai que ça peut toujours engendrer une discussion, un échange. Et voilà, on essaye de le diffuser, bien sûr, au-delà du cercle d'église stricto sensu. Hein.
On peut vous dire aussi... Guy Parent nous a dit ça à la dernière réunion, ça ne va peut-être pas vous étonner, qu'on envoie chaque fois aux députés, aux maires, préfets et tout. Et Guy a remarqué que cette fois-ci, il y en a qui n'avaient même pas répondu, et que ceux qui avaient répondu « j'accuse réception, je vous remercie ». Alors qu'en général, sur les autres thèmes qu'on avait évoqués, c'était « oui, c'est un thème important, intéressant », il rajoutait une ou deux petites phrases, quoi. Cette fois-ci, ça avait été assez...
Justement,
enfin, gêné, je pense.
Ce qu'on a senti, c'est que ces souffrances, cette pathologie, je vais dire ce mot pour simplifier, met profondément la société, enfin nous met mal à l'aise, met la société mal à l'aise, à la différence de bien d'autres pathologies. Alors même si, effectivement, on ne réclame pas la pitié, la compassion, il n'empêche que... cette pathologie-là par rapport à d'autres, hein, c'est, je lisais encore dans un journal un témoignage à propos d'un livre qui vient de sortir sur ce sujet, écrit par un père d'un fils schizophrène, et qui disait, enfin je me permets juste de citer ça, en 11 mois, pas un seul autre membre de la famille n'est venu le voir. S'il avait eu une autre maladie, une leucémie par exemple, je pense que tout le monde se serait précipité, que la compassion aurait été générale, mais la schizophrénie, ça reste une maladie honteuse. Et on a senti bien ça. Et c'est ça qui a été un peu notre fil conducteur, c'est aussi de considérer cette maladie comme révélateur de bien des insuffisances de notre monde, hein, de notre société, à commencer par la difficulté de la prise en charge médicale, tout simplement. Hein. Là, les insuffisances, enfin, je ne vous apprends rien, bien sûr, mais ça, nous n'avons pu le vérifier. Et d'une manière générale, voilà, des personnes qui nous interpellent dans nos relations ordinaire, dans notre vie ordinaire, et qui mettent à jour bien des déficiences, des manques de ce qu'on peut appeler le vivre ensemble, enfin du sens de nos relations, du sens de l'humanité. Et c'était ça, vous voyez, qui a été notre fil conducteur et l'enjeu de nos interrogations.
Bien. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est très réussi.
Merci à vous.
Oui, là on en a plusieurs exemplaires ici, mais on les trouve à la procure.
À la librairie La Procure, c'est à Poitiers. Voilà, oui.
Ils sont à 5 euros.
Oh,
non, pas
épuisé.
Encore.
Ah
non. Non, pas encore. Non, non, on en a. Il en reste encore. On vient de le sortir juste. Ouais. Voilà, c'est à 5 euros. Hein.
Moi, je voulais dire, je souffre de troubles bipolaires. Ça fait 30 ans que je connais la psychiatrie. Et pour la dame, enfin les parents de... il y a de l'espoir, il ne faut pas perdre espoir, parce que moi, j'ai fait énormément de TS. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 18 ans. Et là, j'ai eu la chance de trouver la bonne molécule, qui est l'Abilify, et qui a changé ma vie. Et de plus, j'ai eu un cancer, donc il a fallu que je me batte doublement. Ce qui est assez étrange, en fait, parce que ben, quand on monte très haut en phase maniaque, on retombe très bas. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la psychiatrie, c'est encore tabou, je trouve. Il y a des médecins, vraiment, c'est vrai que c'est déjà pas drôle de porter cette maladie. Et c'est vrai que dès qu'on sort de la psychiatrie, qu'on va à la médecine normale, en fait, on n'est pas, c'est pas encore bien intégré. Trouble bipolaire, oui, bah, folie, autrefois c'était ça, en fait, la folie. Ouais. Donc voilà, je voulais juste dire que bon, il y a toujours de l'espoir.
Merci.
Et je vous en prie.
Oui, moi c'est pareil, je suis passé par des phases assez basses, avec des problèmes d'ordre familial et qui ont engendré en moi l'envie de partir, carrément, de ne plus souffrir et de surtout de plus se rendre compte de ce qu'il en est. J'ai fait quatre tentatives en 2 mois, avec le couteau sous la gorge, prêt à m'ouvrir la gorge et les veines, et avec des médicaments aussi. Et je n'ai pas été, comme on dit, soutenu. Au contraire, la personne qui, par rapport à laquelle je tairai le nom et de ce qu'il en est, a fait en sorte de dire que ce que j'avais fait, je pouvais faire mieux. Maintenant, il se fait que elle est partie et que je viens de retrouver quelqu'un qui me redonne la joie de vivre et qui va me permettre, et qui me permet même de plus penser à ça. Parce que on se retrouve sur la même longueur d'onde, sur le même créneau, et on a apparemment on a besoin chacun de se retrouver dans un contexte vraiment familial et de concordance.
Je pense que ce qui est très important, et vous le soulignez là quand même, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure par rapport à la lettre, l'organisation des médias aujourd'hui, l'accès à Internet, le fait, il y a quand même eu un peu une, je dirais, une démystification par rapport à la maladie, il faut quand même le reconnaître un peu, et donc les associations se montrent. Hein, l'UNAFAM maintenant, l'UNAFAM n'existait pas il y a 40 ans, hein, où ça existait d'une manière très confidentielle, et comme il n'y avait pas les moyens de publicité comme Internet ou des conférences, on était beaucoup moins. Donc je pense que ça, il faut vraiment, je pense que les maladies psychiatriques et les maladies mentales, c'est complexe, donc il faut envoyer vraiment les gens vers ces associations. Il faut faire la publicité de ces associations parce que je pense que l'accompagnement des gens, des familles et des malades par des gens autres que le milieu médical est très important. Et il faut vraiment, je crois que si on peut concourir à ça, c'est important aussi. C'est pour ça qu'à la fin du document, on a mis quelques adresses et avec des sites internet. Il faut non pas, je pense que quand on rencontre quelqu'un de malade, il ne faut pas penser qu'on peut être son soignant, hein, mais je pense qu'on peut être son accompagnant. Et en l'accompagnant, il faut l'accompagner avec ces moyens qu'on a de ces associations qui existent.
Oui, je voudrais continuer un petit peu parce que j'ai une maladie qui est une maladie orpheline et qui me procure des problèmes de mémoire. Qui est la fibromyalgie, la dégénérescence musculaire. Et nous sommes 1 500 000 en France et il n'y a aucun traitement pour cette maladie, malheureusement. Suite à ce que je viens de dire précédemment, j'ai été voir mon médecin traitant, puisque mon psychiatre, il fallait prendre des rendez-vous à 3 mois à l'avance, et c'était disons qu'il y avait une urgence à être pris en main tout de suite. Il m'a recommandé le CMP de Châtellerault, où j'ai vu une infirmière de psy, sur qui je suis tombé sur une personne plus que compétente, qui a su, au moment où je parlais, non pas me couper la parole, mais intervenir pour me faire dire plus de choses de ce que j'hésitais à dire. Et de là, elle m'a conseillé, pour ne plus être seul et m'occuper, et en même temps rencontrer des gens pour me permettre d'avoir une autre vision qu'une vision fermée. Elle m'a conseillé d'aller donc à Châtellerault au fil d'Ariane. Et depuis que je vais au fil d'Ariane, j'ai retrouvé quelque chose d'important, de joyeux. Et c'est vrai que la première fois, ça m'a paru un peu bizarre en me demandant ce que je faisais là. Parce que dans ma tête, ce n'était pas clair. Ce n'était pas par rapport aux gens qui étaient là. C'était par rapport à moi qui avait le doute de ce que je faisais là. Et je n'ai pas regretté d'y retourner. Bien au contraire. Et depuis le mois de novembre, je vais au fil d'Ariane. Et j'en suis très content. Et j'ai une autre vie qui est stable à travers ça. Et je tiens à remercier l'infirmière et le fil d'Ariane qui est compréhensible à travers ça et qui amène beaucoup de choses.
L'UNAFAM a été créé quand ? 63.
Alors, je saisis la perche qui m'a été tendue tout à l'heure, là, puisque j'évoquais le projet de loi. Dans les remarques que l'UNAFAM fait aux parlementaires en ce moment, il y a en particulier une remarque sur l'article 32.22.1 sur les aidants familiaux. L'UNAFAM demande que le soutien apporté aux aidants familiaux et de proximité soit reconnu par le directeur général de l'ARS de chaque région et qu'il désigne celui-ci un établissement qui doit veiller à la mise en place des actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants de proximité des malades. Donc si vous avez l'occasion de rencontrer un député, moi je l'ai fait, et d'ailleurs Balthazar trônait sur son bureau. Et donc l'UNAFAM demande aussi que les associations soient effectivement habilitées et qu'il y ait des financements publics pour ça, pour cet accompagnement qui est d'utilité publique. Hein, comme c'est le cas au Québec par exemple, si vous allez sur les sites de la FAPAM au Québec, FFAPA2M, vous verrez qu'il y a une mission de service public qui est assurée par cette association. Et effectivement, si on ramenait l'UNAFAM à la taille du Québec ou la France à la taille du Québec, l'UNAFAM, qui compte aujourd'hui une dizaine de permanents à peu près, en compterait plusieurs centaines si elle était structurée comme c'est structuré au Québec dans le rapport de population. Allez rencontrer vos députés, vos sénateurs, vos aspirants conseillers généraux pour leur expliquer que tout ça est important. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, en faisant ça ?
Oui, notre regard a changé, évidemment.
Ben, sauf pour ceux d'entre nous qui savaient déjà très bien de quoi, de quoi ils parlaient.
Oui.
Ça fait peur, je crois, sur tout ça. Ça évolue quand même. Il y a des traitements, c'est un rejet médical. Il y a plein de choses. Ils ont refait des pavillons. Elle a donc une
Ouais.
C'est vrai, moi je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Et c'est vrai que ça évolue quand même bien. Donc,
elles sont plus, il y en a moins, ouais. C'est ça, oui. Oui, il y en a moins. Ouais. Ouais. Et oui. Et oui.
Mais on a quand même le sentiment que globalement la prise en charge médicale. Oui, enfin. Peut-être au niveau qualitatif, mais bon, les soins de proximité, enfin, qui étaient.
Mais quand monsieur dit qu'il faut 3 mois pour avoir rendez-vous chez un psychiatre, et encore.
Oui, c'est le minimum. Oui, c'est le minimum.
Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas assez soulignée dans ce document, c'est l'importance des infirmiers psychiatriques.
Oui,
hein. Je regrette un petit peu parce que.
Oui, et vous l'avez dit, et on a vu.
Qui font un travail quand même assez remarquable. Ouais, ouais.
Sur le coup, j'avais une réponse par téléphone, parce qu'elle me rappelait, ouais. Et elle me donnait un rendez-vous pour pouvoir venir
et parler
des pour qu'elle puisse me, en même temps m'exprimer, mais me dire et provoquer pour amener autre chose. Mmh. Et actuellement, je ne la vois plus depuis le 1er février, mais je sais que si j'ai besoin,
elle est là.
Elle est là, juste à demander. Il n'y a aucun problème.
Ouais, ça, c'est des professionnels, oui. Ouais.
Alors que le psy, c'est avant tout, comme le médecin traitant a dit, et c'est vrai, c'est un thérapeute, j'en ai parlé, j'ai été la voir le 9 février pour renouveler mon traitement. La seule chose qu'elle m'a dit, oui, et si vous avez besoin, vous téléphonez à madame. C'est avant tout le thérapeute qui donne le traitement médical et point à la vie.
Oui.
Je voudrais ne pas éluder la question que vous avez posée, ce que vous avez appris. Bon, moi, je ne suis pas. Enfin, je ne connais pas de près la maladie mentale, mais ce que je vais dire, enfin, notre travail m'a appris, c'est en rédigeant ces textes, et c'est pas rien d'écrire, parce que forcément, on implique quelque chose de soi aussi, quelle que soit l'expérience qu'on a vécue. Bon, c'est une sorte de, un ensemble de jeux de rôle, hein, presque, au meilleur sens du mot. Hein. C'est essayer d'un peu mieux comprendre la diversité des points de vue possibles, des regards possibles. Alors, évidemment que personnellement, je n'adhère pas à tous ceux qui sont présentés là, et j'ai de la sympathie pour certains et moins pour d'autres, mais c'est d'essayer d'abord de faire cet effort de compréhension de tout ce. Voilà, la diversité des regards qu'on peut porter sur ces personnes. Je crois que c'est d'abord un premier travail à faire, essayer de comprendre. Alors, il y a des points de vue qui nous choquent, il y a des points de vue qu'on a tout de suite envie de rejeter. Bon, voilà l'état des lieux, en quelque sorte. C'est pas exhaustif, bien sûr, hein, mais un certain état des lieux, quand même, assez divers et assez significatif de notre société aujourd'hui sur le malade mental. J'en avais vaguement l'idée, mais je dirais que le fait de d'écrire certaines parties de, enfin, quelques-unes de ces lettres, et surtout de lire le travail des autres. On s'est corrigé, on a amendé, on a revu, on a passé beaucoup de temps à ce travail de relecture et disons d'harmonisation. On a réfléchi aussi à l'organisation, à l'ordonnancement. Tout ça, moi, ça m'a aidé à un peu mieux comprendre, à la fois les témoignages de la plus grande proximité, de l'intimité, et puis des regards plus distanciés, plus objectifs, plus scientifique.
Je pense que la peur est tombée aussi parce que si certains d'entre nous peuvent avoir un petit peu peur des personnes qui sont étranges, qui ont des comportements étranges. Bon, c'était pas obligatoirement le cas des membres de l'équipe, mais bon, c'est quand même une réaction très fréquente. Hein. Le fait d'essayer de mieux comprendre non pas les raisons des comportements mais simplement la façon de vivre et les relations avec une personne qui est malade, je pense que ça fait tomber la peur.
Par contre, vous savez, il y a une chose, c'est que Et au lieu de m'ouvrir vers l'extérieur, je me suis fermé. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Parce que on a beau essayer de, même si on est compris, s'il n'y a personne qui est là pour amener à la discussion ou à l'ouverture de quelque chose, on s'enferme de plus en plus. Et c'est ce qui fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Et il est vrai que depuis à peine la mi-novembre, j'arrive mieux, et encore là, je parle sans trembler, j'arrive mieux à m'ouvrir, à expliquer, et à dire et à discuter. Et ça, c'est une chose qui est importante, c'est de ne pas s'enfermer, c'est d'aller vers les gens et de leur faire confiance tout de suite, et de leur faire confiance tout de suite pour s'ouvrir dans le besoin. Et avec Olivier du Fil-d'Ariane, comme Jacques qui est là, ou Marie-Thérèse, il y a des choses que je leur dis, etc., parce que j'ai besoin de m'ouvrir, et ça me fait du bien. Et ils savent comprendre, comme l'ensemble des personnes qui sont comme la Gérard qui est là, et puis Josiane et d'autres, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu envie de pleurer, et le fait de pleurer m'évite d'avoir une crise au niveau de la maladie. J'ai pleuré, ils ont compris, ils étaient avec moi. Je n'ai pas été rejeté, il n'y a pas eu de question. Ça a été un ensemble amical de compréhension. Et ça, lorsqu'on se trouve dans ce genre de situation, c'est important d'être compris à ce niveau-là.
Oui, tout à fait. Et qu'on est reconnu.
On n'est pas seul, voilà.
On n'est pas seul.
Et ça, c'est le CMP aussi qui m'a aidé. Parce que moi, c'est pareil, je suis un infirmier comme si, et je vois beaucoup plus que mon.
Oui, que le médecin. Oui, oui.
Les rapports et tout. Mais c'est vrai qu'il y a du bon travail de fait.
Oui, oui.
Il y a vraiment un suivi, il est toujours disponible. Enfin, vraiment, il y a des gens vraiment qui font ça vraiment avec amour, avec
compétence. Oui, oui. Il n'y a plus de formation spécifique pour infirmiers psychiatriques maintenant. C'est une formation générale.
C'est 33 mois au niveau des infirmiers maintenant. Il n'y a plus
Oui, avec
les infirmières psy. Non, je vous parle de ça parce que je suis hospitalier. J'ai travaillé 31 ans dans l'hôpital. Et ces 33 mois, les taux sont fondus.
Moi, j'ai découvert un milieu médical assez divisé, assez complexe, et qui souvent ne m'a pas paru très sympathique. Ça a été ma déception.
Il y a quelqu'un qui veut parler de moi.
Je vais rebondir sur ce que vous dites. Je pense que. Je n'ai pas besoin de le
confondre. Parce que après, ils sont enregistrés. Ah bon.
Ouais, alors je sais pas si je vais trouver mes mots, mais enfin bon. Fond du micro. Bon, je pense que votre choix de la lettre me paraît judicieux à l'extrême, parce que je pense que quand on est confronté à cet univers de la maladie mentale, je veux dire très 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 très, très vite, on découvre que c'est d'abord effectivement une maladie de la relation. Et c'est une maladie de la relation pour le malade, mais très vite aussi pour son entourage. Parce que quand on voit tout l'itinéraire par lequel on passe au travers de cette expérience de la proximité avec la maladie, très très vite, on a le sentiment d'accumuler un vécu qui est totalement impartageable. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas reprocher aux autres leurs attitudes, parce que notre expérience nous prouve qu'on serait comme eux, quoi. Je veux dire que ça paraît quelque chose d'incommunicable. Donc on est tout le... Et en allant même encore un peu plus loin, je dirais que le milieu médical lui-même est enfermé dans cette incommunicabilité. Et c'est ce qui explique toutes les difficultés qu'on a dans cet ensemble de relations. Sans parler que les gens... Enfin, c'est l'expérience qu'on en a au travers de notre propre expérience. Je veux dire, quand on côtoie ces gens qui nous posent et qui nous interpellent sur le plan de ce que c'est que la normalité, à tous les niveaux, toutes les lignes sont sans arrêt déplacées, quoi, je veux dire. Et le sentiment de malaise, de confusion, est perpétuellement installé, quoi. Je veux dire. Et quand je pourrais être aussi plein de reproches par rapport au milieu médical, y compris quand on voit que sont organisées des semaines comme celle-ci de la santé mentale, et le degré d'absence de ces gens-là. Il n'y a jamais... Je veux dire, ils ont une semaine dans l'année où ils pourraient être à la rencontre de toutes les interrogations auxquelles ils ont à faire face, de les leurs comme celles des autres, et ils sont d'une absence, mais je veux dire, révoltante au dernier degré, quoi. Hein? Donc on est vraiment complètement enfoncé dans l'incommunicabilité, quoi. Hein? À tous les niveaux. Et c'est pour ça que je trouve que votre expérience, au travers de l'aide, c'est justement peut-être effectivement une manière de faire exploser cette thématique de l'incommunicabilité qui est complètement centrale, quoi, dans la maladie mentale.
Merci, c'est exactement ce qu'on a
fait. Oui, mais c'est ce qu'on a fait, mais ce n'est pas ce qu'on a voulu faire. On l'a fait peu...
Je n'avais pas calculé.
Intuitivement.
Oui, il y a une intuition, oui.
Oui, donc moi, je ne sais pas si je vais pallier le manque médical, mais enfin, je suis psychologue et j'entends ce que vous dites, monsieur, parce que effectivement, je pense que le problème de la communication est un gros problème, ouais. Justement, non seulement avec les personnes à qui on a affaire, mais... pour moi, ce n'est pas tellement le problème de la maladie mentale, le malade mental en général, mais c'est un problème, comme vous disiez, relationnel. Et effectivement, quand il y a des troubles très importants, le problème, c'est de comprendre la personne. Et nos formations, a priori, elles doivent nous aider dans cette compréhension. Maintenant, je peux entendre effectivement que... C'est pas toujours évident pour personne, en fait. Voilà. Mais je pense aussi que y a quand même, au niveau de la prise en charge médicale, des évolutions. Et notamment, il y a beaucoup de structures qui se mettent en place et qui vont... désormais à la rencontre des gens, de plus en plus, au domicile, des dispositifs tels que des SAMSA, des SAVS, qui se font de plus en plus nombreux. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui se font et qui sont porteuses d'avenir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des déceptions, forcément. c'est pas... tout n'est certainement pas rose, mais quand même, en tant que psychologue, j'ai envie de témoigner parce que moi, dans mon travail, j'aime ce que je fais. Et puis, on est là pour écouter des gens et pour essayer de le faire au mieux. Donc, on ne peut pas non plus, d'un côté comme de l'autre, stigmatiser les différents champs. C'est ça que je veux dire. Effectivement, tout le monde est en difficulté quand on est face à quelqu'un qui ne parle pas le même langage que nous. Mais d'un autre côté, quand on fait aussi un travail avec ces personnes, on se rend compte qu'au fond de nous, on a des choses aussi un petit peu comme ça qui sont incommunicables. Voilà, c'est des expériences aussi existentielles que l'on fait dans la relation avec les gens. Alors après, au niveau des services de psychiatrie, forcément, voilà, il y a des rôles chacun. Je dirais qu'il y a un système aussi qui se met en place maintenant. Il y a des protocoles, tel médecin il doit faire ceci, ou tel infirmier va faire cela, tel psychologue va avoir à faire ceci ou cela. Et effectivement, ça génère peut-être des incompréhensions et puis des déceptions de la part des gens qui sont avant tout, qui ont envie d'une écoute. Et moi, personnellement, en tant que psychologue, je pense qu'effectivement, l'écoute est pour moi primordiale. Elle ne remplacera jamais un médicament, elle ne remplacera rien d'autre. Et le regard qu'on porte sur quelqu'un, effectivement très important. Voilà ce que je peux dire un petit peu pour eux.
Il y a un fil d'Ariane aussi à Poitiers, hein, à New York, Châtellerault, monsieur a dit tout à l'heure, sur les deux Sèvres, vous savez pas, Bressuire.
C'est pas un fil d'Ariane, excusez-moi la précision, c'est des groupes d'entraide mutuelle. Hein, il y en a un aussi à New York dans les Deux-Sèvres, hein, il y en a 320 en France. Des structures qui sont développées énormément ces dernières années, qui apportent un soutien, un accompagnement assez phénoménal.
Ils ne s'appellent pas tous fil d'Ariane.
Non, non.
Dans la région, ça s'appelle comme ça.
Et l'association fil d'Ariane n'est que le parrain des deux GEM. Hein, on veut mettre l'accent là-dessus. Excusez-moi, je suis animateur au fil d'Ariane et on veut mettre l'accent là-dessus parce que les deux GEM sont des structures qui sont vouées à être le plus autonomes possible et gérées par les usagers eux-mêmes. Le fil d'Ariane met à disposition des deux GEM des moyens financiers et salariés. Voilà.
Donc c'est un couple. Hein, voilà. C'est un bipôle. il y a des gens qui sont malades, qui essaient de s'organiser, comme ça a été très bien dit, de s'aider mutuellement les uns les autres. Et puis il y a des gens qui sont là pour s'assurer qu'ils ne sont pas en difficulté. Mm-hmm. Et puis pour être un peu catalyseur. Donc c'est association parrain, association d'entraide mutuelle. Alors ça s'appelle quelquefois des espoirs quelque chose, etc. Mais si vous allez sur les sites UNAFAM départementaux dans les différents départements, en général, il y a le lien vers le groupe d'entraide mutuelle. Moi, je voudrais répondre un peu à la critique de Roger sur les soignants, parce que ils viennent régulièrement soutenir nos activités et moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ça à longueur de journée et qui consacrent encore des soirées. Enfin, non mais tu... Non ? Ah oui, d'accord.
Je le reproche, c'est que globalement, depuis que je côtoie la semaine de la santé mentale, quand on ne les met pas à la tribune, ces gens-là, ils sont complètement absents. C'est tout, c'est la réalité, ça. Mais pas tous, mais je veux dire, c'est tellement minoritaire que c'est un phénomène qu'on peut qualifier quasiment d'inexistant, quoi. Je ne vais pas vous ramener à l'état de particules, mais je veux dire que voilà ce que je dis. C'est tout. Bon, il ne faut pas me prêter de
malveillance. Je voulais savoir simplement à ce propos s'il y avait des invitations qui étaient lancées pour chez les médecins, chez les médecins généralistes. C'est surtout ceux-là qui sont concernés, à mon avis.
Mmh. Ah oui,
c'est vrai qu'on a
le proposé à des médecins, oui.
Effectivement, il y a un certain nombre de cabinets médicaux qui ont été destinataires en main propre de la feuille d'invitation, et certainement d'autres qui ne l'ont pas reçue. Je m'étais adressé aussi lundi donc à un membre du bureau des médecins généralistes de la Vienne, donc qui est venu à ce titre-là aussi pour parler de la permanence de soins. Donc j'imagine qu'il y a aussi des relais et des réseaux comme ça. C'est vrai que la presse n'a pas très bien relayé ma demande de communiqué de presse cette année. Alors je ne sais pas si c'est l'actualité japonaise, l'actualité électorale, l'actualité, etc. Enfin, c'est toujours la sélection est en fonction de ce qu'attendent les lecteurs, etc. Bon, je pense que nous, UNAFAM, avons aussi des marges de progression dans la diffusion de l'information. Je m'y suis pris trop tard pour diffuser au personnel d'Henri Laborie, par exemple. Donc c'est vrai que les années où il y a, avec le bulletin de salaire, agrafer le programme de la semaine d'info sur la santé mentale, on en a un peu plus. Donc là, C'est effectivement tout le système aussi d'information, de relais, de diffusion.
Puisqu'on parle de communication, j'en profite. Peut-être ça a déjà été fait par des collègues ce soir, mais pour dire que demain, il y a des portes ouvertes au niveau de l'association Fil d'Ariane et du GEM de Poitiers qu'elle parraine. Donc nous vous invitons chaleureusement à venir y participer. Ah, bon, une bonne communication. Merci, ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et donc, ben, venez demain. Donc c'est au 13 rue Salvert, au quartier du Porto, de 9h à 19h, toute la journée non-stop. De 10h à 19h, mais si vous venez à 9h, les portes sont ouvertes quand même.
Voilà, en plus. Alors, comme je suis, j'habite sur Poitiers Ouest, j'ai fait vraiment beaucoup de photocopies parce que je n'avais pas pris suffisamment de feuilles pour distribuer. Et même, puisque c'était Poitiers Ouest et que je voulais sensibiliser à la proximité, j'ai mis au flash vert un flash vert sur toutes les adresses là, de la nouvelle maison. Donc, j'espère que vous aurez quelques visites parce que j'ai profité de la proximité, donc je les ai distribués. Il y avait eu un verre de l'amitié là, dans les parages à Sainte-Thérèse, donc j'ai largement diffusé, mais j'ai semé, voilà. J'ai sensibilisé vraiment à cause de cette proximité, à cause du public touché aussi, mais j'ai simplement semé.
Et votre fascicule est diffusé, là vous nous avez un peu évoqué donc les abonnés, les paroisses, des décideurs politiques. Il y a d'autres canaux de diffusion envisagés ou...
Ce sont les canaux habituels, donc on n'a pas trop élargi effectivement au niveau de la diffusion. On est toujours un petit peu... De toute façon, au niveau du tirage, on a largement au-dessus de ce qui peut être adressé directement. Mais je dirais que au niveau diffusion générale, on ne s'est pas beaucoup élargi par rapport à ce qu'on avait fait auparavant.
Et on ne travaille pas tellement ça, finalement. Non.
Alors, il y a malgré tout...
Il y a aussi peut-être, il me semble, d'un côté une gêne. Enfin, c'est un truc destiné aux chrétiens... Bon, eux, s'ils le veulent, ils doivent pouvoir se débrouiller pour le lire, parce que c'est quand même...
accessible. Oui. Aux chrétiens, mais pas que, quand même.
Non, mais pas que. Mais la diffusion, on va pas aller porter...
C'est vrai qu'on ne va pas dans toutes les librairies, on ne va pas, effectivement... on n'en voit pas non plus à toutes les associations. Enfin, sans doute que là, de ce côté... Enfin, au niveau du fichier, on est relativement limité, hein, c'est vrai.
On peut rappeler que c'est la librairie La Procure de Poitiers. Je ne sais pas si la librairie Siloé de Niort...
Mais non, elle n'existe plus.
Elle n'existe plus, alors, c'est ça. Mais c'est La Procure à Poitiers, le vent, enfin, on le trouve. Hein.
Aussi, à la maison de Cézanne, mais bon... La diffusion qu'on... effectivement, notamment sur le département des Deux-Sèvres, est vraiment très, très, très limité. Oui. On avait deux points auparavant, maintenant, on n'en a plus. Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas réellement travaillé, hein, ça, c'est vrai. Alors, ça a paru quelquefois dans la presse. Il y a aussi... On envoie quelquefois... Enfin, c'est envoyé aussi à la presse nationale, qui le relate, c'est arrivé. Et on a eu des demandes d'exemplaires venant effectivement de l'extérieur.
Il y a une infâme en Deux-Sèvres ?
Oui, oui.
On va leur en envoyer 10.
Il y a même un délégué régional dans la salle. Alors, effectivement, dans notre document, on a mis l'une à femme Poitiers. Bon. Parce que c'est l'adresse que j'avais.
Si on a cherché.
Oui, mais moi j'avais. Bon, voilà. Oui, oui, c'est. Bon, c'est bien. Pas nous directement.
Ah oui.
Merci. Bon, merci.
Y a-t-il d'autres questions, remarques ou vous-même, avez-vous des...
On aurait eu plus de temps, on aurait dû vous ajouter à la liste des personnes qu'on a entendues. Une liste était déjà longue et... Ouais.
Je peux peut-être projeter un petit machin qui va répondre à certaines questions. C'était l'ensemble des services sociaux, médico-sociaux et autres pour voilà. Donc on parlait de psychiatres, vous n'allez sans doute pas pouvoir tout lire, mais
gêne là. Non, non, ça va.
Donc vous voyez là que il y a des couleurs différentes. Donc il y a des choses bleues, c'est des établissements sanitaires. Donc l'établissement public de santé mentale en Poitevin, c'est Henri Laborie. Des cliniques privées en Poitevin, il n'y en a pas. Des médecins traitants, il y en a heureusement. Des psychiatres privés, il y en a, mais avec 3 mois d'attente pour y accéder. Des centres médico-psychologiques, on a entendu tout le bien que des usagers en pensaient. Des groupes d'entraide mutuelle, donc là on n'est plus dans le sanitaire, on est dans le social. Des services d'accompagnement à l'insertion professionnelle en milieu ordinaire, donc Espoir 86. Des maisons relais et résidences d'accueil, aussi éventuellement Espoir 86 ou un peu entraide sociale Poitevin. Des services d'accompagnement à la vie sociale, aussi Espoir 86. Des familles gouvernantes, ça existe, donc qui règlent des questions à la fois de logement et d'accompagnement, des familles d'accueil, des foyers de vie, etc. Du médico-social en vert, donc service d'accueil médico-social pour adultes handicapés, des appartements associatifs, des appartements thérapeutiques, on n'en a pas, un foyer d'accueil médicalisé. Pourquoi il est en gros trait, lui, en projet ? Maisons d'accueil spécialisées, etc. Et on voit bien qu'il n'y a pas que des médecins là-dedans. Loin s'en faut. Voilà, donc, si on n'a pas toute cette galaxie-là, on ne traite pas correctement le problème. Alors, ça ne traite pas tous les problèmes, hein, puisqu'il y a aussi des choses comme la protection juridique, il y a aussi des choses... comme l'activité professionnelle, enfin si il est là l'établissement et service d'aide par le travail, donc là dans la Vienne on a la chance d'être un petit peu à la pointe avec l'essor, etc. Et puis il y a tout ce qui a été évoqué aussi, les relations personnelles de gens qui ont un regard bienveillant sur les relations un petit peu chahutées que quelquefois ça suscite cette maladie là donc ça aussi ça mériterait d'être connu davantage. Des questions, des remarques. Donc, moi, il me reste à vous remercier de tout ce travail. On va continuer à parler de vous, à diffuser le fascicule.
Merci
beaucoup.
Merci
à vous.
Merci. Merci.
Et puis donc, demain, outre les portes ouvertes à la maison de Salvaire du Fil d'Ariane, il y a aussi la soirée auditrice. À 20h, un film Asylum, donc qui rappelle quelques images de l'asile du début du XXe siècle, avec l'intervention d'une psychiatre de Laborie pour expliquer que Laborie, aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça, loin s'en faut. Et puis aussi un documentaire dans un centre d'accueil d'adolescents. Donc, avec à chaque fois un petit débat à l'issue de la projection. Et nous y serons aussi. Donc, faites le savoir autour de vous. Et puis, vous pouvez aussi prendre des petites cartes roses sur les tables de l'entrée, puisque l'UNAFAM assure aussi une autre forme de service public qui est un numéro d'appel professionnel par des psychologues, donc spécialement au fait des problèmes de la maladie psychique. Voilà, merci à tous de nous avoir choisis plutôt que la prix Nobel de la paix.
Merci.